matière de fiscalité directe locale, nous sommes invités à conclure entre communes et agglomérations un pacte financier fiscal. Nous avons, du fait du passage en agglomération, une compétence obligatoire qui se transfère, qui s'appelle la politique de la ville, et dès le 1er janvier 2017, date de la création. Nous avons des personnels qui sont transférés parce qu'ils suivent des compétences, et il y a une autre obligation, c'est la mutualisation des services qui est imposée par plusieurs lois, RCT en 2010, MAPTAM en 2014, et rappelée par la loi NOTRe. Je crois qu'on est la CCPL était la seule communauté à avoir réalisé un schéma de mutualisation des services dans les délais le 31 décembre 2015. Et bien évidemment, ça interroge sur les métiers et les emplois, et ça nous implique et nous impose une gestion prévisionnelle. Voilà, ça c'est un chapeau très important à développer. L'actualité législative et réglementaire nous impacte également, et donc nos ressources. Tout d'abord la loi NOTRe, et ses conséquences en termes de transfert de compétences. Donc la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et d'agglomération depuis le 1er janvier. La GEMAPI, autrement appelée gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aurait dû être d'agglomération en 2018. Les élus ont précédé le transfert d'une année en représentation substitution, c'est-à-dire qu'on est passé de la CCPL vers le PETR. Et nous serons invités à transférer nos compétences eau assainissement au 1er janvier 2020. Une loi de fin d'année a eu des conséquences pour nos équilibres, nos ressources, tout simplement. C'est la loi Montagne, puisqu'elle permet, au niveau de la compétence tourisme qui aurait dû être transférée à l'agglomération, elle permet aux stations classées de faire jouer quelque part la clause communale. C'est ce qui a été fait à Lourdes. Bien évidemment, ce plan tient compte des recommandations du contrôle de gestion de la CRC. Alors, Madame le maire l'a indiqué, hein, il y a un travail de redressement qui a été entrepris dès fin 2014, avec donc, deux audits, un audit financier rétrospectif que j'avais mené en interne fin de l'année 2014, et un audit organisationnel que le cabinet public Impact Management avait fait début janvier. Ça avait été présenté en conseil municipal les deux, et nous mettons en place des préconisations. Les préconisations. Donc, c'est un travail pas spectaculaire et de l'ombre, mais c'est un boulot qui est fait et qui est toujours en cours. Pardon. Juste un zoom sur les ressources humaines et comment on se remet en ordre de marche. Humblement, je le dis humblement, hein. Je ne porte pas de jugement. Aucun. Juste vous rappeler l'enjeu RH d'une gestion de ressources humaines. C'est assez simple, hein. Une alternance, vous avez un état existant des effectifs, vous avez une exigence de projet de mandat de niveau de service, donc forcément ça impacte l'activité de service public. Et vous regardez et vous travaillez sur les hommes en termes à la fois de formation, de recrutement, de déploiement, pour avoir la task force humaine de manière à conduire vos projets, tout simplement. Donc ça, c'est l'enjeu RH d'une gestion des ressources humaines. Ce qu'on a pu apporter, alors bien sûr, il y a des choses qui se faisaient à Lourdes, hein, c'est évident. Hein. Le service, par exemple, des ressources humaines faisait de la gestion du personnel. Il n'y a pas de souci. La gestion du personnel, c'est quoi ? C'est payer les gens tous les mois, c'est gérer l'absentéisme, c'est gérer les carrières. Et là, nous avons constaté un doublon avec le centre de gestion, puisque nous cotisons obligatoirement parce que la ville de Lourdes fait moins de 350 agents, donc on est affilié directement à cette cotisation. Donc on a repéré un doublon et on est en train de basculer la gestion et carrière vers le centre de gestion 65. Ces gains nous permettent, et la reconfiguration du service ou de la direction des ressources humaines nous permettent d'aller plus loin. Je vous expliquer deux, trois choses. J'ai demandé à Sylvain, qui est déjà ressource, de s'occuper, par exemple, du dialogue social. Donc régulièrement, c'est pas spectaculaire, mais c'est quoi ? Sylvain, c'est tous les 15 jours que tu as du travail avec les représentants élus du personnel. Nous avons mis en face des fiches de poste qui sont, malheureusement, on l'a constaté par rapport au dysfonctionnement, une fiche de poste, ça permet également de protéger l'agent. Parce qu'au moins, on sait ce qu'il fait en activité, en tâche, en mission. Donc là, les fiches de poste sont... chaque agent a une fiche de poste, ce qui permet également de s'en servir comme un outil de gestion lors de l'entretien professionnel. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu la mutualisation des services en plus et on a pas mal bougé certaines pratiques et ça peut déstabiliser. On s'est attaqué également au volet recrutement. Donc au volet recrutement, on a opéré une mobilité interne assez forte puisqu'on a mis en position d'encadrement une douzaine de personnes. Alors, quand je dis on a mis en position d'encadrement, je ne raisonne pas structure, je raisonne territoire. L'organisation qui est mise en place, elle est pour la ville de Lourdes, pour la CCPL, ou l'été pour la CCPL, elle est pour l'office de tourisme, elle est pour le CCRS, elle est pour la régie du Golfe. On a tout mutualisé. On s'est constitué de cette façon, de manière à, dans l'agglomération, de porter les mêmes ressources pour le compte d'un pôle territorial sud qui est en construction avec la nouvelle gouvernance de l'agglomération. Donc les directeurs qui sont Armel pour le service population, Patrice DGST, Sylvain pour les ressources, Jean-Michel Laroche pour le développement et moi-même, donc nous sommes 5 directeurs. Nous le sommes pour le compte de tout cet ensemble. Voilà. Il y a un gros boulot à faire sur la formation, avec la mise en place de ce plan, c'est le dernier volet qui nous reste, de manière à avoir une gestion cohérente des ressources humaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en étant dans des relations de travail avec une agglomération, avec d'autres pratiques, ça permet, c'est un effet accélérateur en matière de management et de bonnes pratiques qui peuvent s'interchanger entre les pôles de l'agglomération. On le constate à chaque réunion qu'on a avec nos collègues du Nord et c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si je dois vous le remontrer, mais je voulais surtout vous dire, pour que la discussion soit très clair, l'organigramme qui est posé, il est posé au service de plus de 16 ans. Précédemment, je crois, c'est juste un constat, n'y voyez pas autre chose, hein. Il y avait une mutualisation de fait, hein, entre la ville et la CCPL. Je crois qu'il y avait ma collègue qui est à Bagnères maintenant, qui était à la CCPL. Il y avait François Roussel qui était à la ville, DG. Il y avait le DGS qui est parti à la retraite, Fernandez. Et le DGST était donc Dominique Testant. Donc il y avait déjà quatre DG, DGS. Donc nous sommes 5. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que j'ai proposé à Mme le maire, dans le projet de mandat, il y avait une volonté de faire du développement économique et touristique avec un volet internationalisation. C'est pour ça que j'ai œuvré dans la proposition pour avoir Jean-Michel Laroche qui a cette compétence. Mais encore une fois, Jean-Michel Laroche, il est sur un périmètre très élargi, puisque en matière de promotion et de développement, il est sur l'OT, mutualisé. D'accord ? Alors, ça c'est pour les ressources humaines. Donc, on s'est organisé Moi, je suis très content d'avoir réalisé 12 mobilités internes. Il y a beaucoup de gens intéressants, compétents, qu'on a mis en position d'encadrement. Et aujourd'hui, on a de bons retours. On a fait 8 accords extérieurs sur encadrement qui ont été compensés par 8 départs. Alors, tout ce bouleversement, forcément, peut expliquer certaines interrogations. Donc au moins, j'ai l'occasion de vous l'exprimer. Sur les ressources financières, c'est assez simple. Hein. Donc on a mis en place une prospective. Alors la prospective, on ne vous l'a pas présentée avant. Pourquoi ? C'est simple aussi. On était dans une construction d'une agglomération. Vous allez voir que les agrégats ne sont pas les mêmes selon qu'on était ou pas en agglomération. L'enjeu... Ben, schématiquement, il est résumé comme ceci, hein. Une collectivité locale, ça a 2 sections. Dans le privé, on appelle ça un compte de résultat pour le fonctionnement. Et le bilan pour l'investissement, sachant que la particularité étant que la section d'investissement d'une collectivité n'est pas tout à fait un bilan du privé, puisque les classes 4 et 5 sont chez le percepteur. C'est ce qui explique qu'on a un principe de séparation entre l'ordonnateur, celui qui donne l'ordre de payer et l'ordre de recouvrer, et le comptable public, le percepteur, qui paye ou qui recouvre. L'enjeu, il est simple, c'est les cases vertes. On peut le tourner dans tous les sens. Il faut que sur nos recettes propres, un réel, c'est-à-dire celle où il y a un mouvement d'argent, on puisse payer nos dépenses courantes, y compris les intérêts de la dette, qu'on puisse, et là on bascule en section d'investissement, honorer le remboursement du capital aux banquiers, et on espère toujours avoir ce qu'on appelle la CAF, on peut l'appeler l'épargne, donc une capacité à autofinancer nos projets. Nos projets ensuite, ils sont financés par quoi ? Par 2 choses, des subventions publiques. Un remboursement de TVA, je ne rentre pas dans le mécanisme avec le décalage de 2 ans pour les communes. Et s'il y a besoin, et il y a malheureusement souvent besoin, on vient chercher de l'emprunt. Voilà comment ça fonctionne. Et ces équilibres, ben, que ce soit une ville, une communauté, une région, un département, c'est les mêmes logiques de fonctionnement. Alors, on a fait tourner plusieurs scénarios, hein. Pensez bien. On propose un scénario. Ce scénario, il va tenir compte de plusieurs choses. Il tient compte de conclusions de l'analyse financière rétrospective de fin 2014. Il tient compte également, puisque le personnel, c'est à peu près 45% des charges fixes, il tient compte de notre audit organisationnel. Nous avons également, au niveau de la communauté de communes du Pays de Lourdes, diligenté une étude fiscale et financière sur les plus, les moins, si je suis en CCPL élargi ou si je suis en agglomération. Ça tient compte également des décisions dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, des décisions de l'État de faire une agglomération sur le Piémont. Bien évidemment, là aussi, il y avait déjà un travail de fait en matière de mutualisation. Les marchés, par exemple, étaient mutualisés. Le service informatique était mutualisé. Donc nous avons accompagné, continué, accéléré la mutualisation au travers du schéma qui a été adopté en CCPL, voté en commune. Et nous avons posé le dernier étage de la fusée avant la fin de l'année 2016. C'est un travail colossal qui a été mené par tous les services et piloté notamment par Sylvain, que je remercie, j'en profite. Nous avons également, avec l'État, diligenté un comité des sages qui a, lui, plus une logique sur le redressement économique pur et dur, et nous avons des demandes très précises en matière de projets de développement et de mise en place surtout d'un plan stratégique du patrimoine, puisque à Lourdes, nous avons un patrimoine important. Et quand on a du patrimoine, c'est forcément un générateur également de charges. Donc là aussi, il y a un gros boulot à faire en matière de cartographie, en matière de choix. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Voilà, il y a plusieurs modes de gestion possibles et qui invitent à nous interroger, tout simplement. Dans la boucle, bien évidemment, parce que voilà, je vais également y associer l'État, puisque Lourdes, ce n'est pas n'importe quelle ville non plus. Et puis, ça fait 2 années et demie que je suis là, je fais un peu partie des meubles, donc j'ai demandé également à la DDFIP, puisqu'on a le percepteur en rôle de conseil auprès des collectivités, à bosser avec nous, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et on a fait tourner les moulinettes, si je puis dire, de la DDFIP. Alors vous comprendrez que le monsieur le percepteur, j'aurais souhaité qu'il puisse le faire à ma place, ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir une vision état, déontologiquement c'est pas possible. Il a eu le niais de sa hiérarchie, ce qu'on peut comprendre. Et bien évidemment, bon, nous on est là également pour ça, et on est payé pour ça, pour apporter des conseils donc, à nos élus. Voilà. Et ce scénario tient compte de tout ça. Alors, là aussi, il y a des recommandations de la Chambre générale des comptes. Moi, j'ai très très vite expliqué à Madame le maire l'intérêt de les suivre et de passer à l'action. Alors, il y a pas mal d'actions qu'on avait décelées avant et qui sont en cours, hein, pour répondre éventuellement aux questions. Pour faire simple, la Chambre, elle vous invite, le conseil municipal, à regarder 3 questions. Rétablir l'autofinancement, pour faire simple. Pour ça, il n'y a pas 36 actions. Maîtriser les charges courantes, c'est fait. Je crois que c'est 1 million d'euros sur le compte 011 qui a été optimisé. La masse salariale, là, il y a du boulot. Il y a du boulot. On a fait une part de boulot. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire avec l'obligation de mettre en place un nouveau régime indemnitaire, et pas que nous, hein, toutes les collectivités, le fameux RICEP. Là, on aura une chance unique de mettre vraiment un outil de GRH en lien avec la masse salariale. Geler la politique associative, c'est le choix des élus. Tout est cartographié. On sait ce qu'on verse en subvention, ça c'est pas compliqué. On sait ce qu'on octroie en avantage en nature sous forme de locaux, fluides, etc. Voilà. Donc le choix était de geler la politique associative. Donc no comment, c'est gelé. Et il y a un travail qui est fait sur la baisse des contributions obligatoires. Donc je ne reviens pas, il y en a 2, notamment l'OTACAM et le SDIS. Puisque les critères ont été travaillés et rebattus, et on en récoltera les fruits avec une baisse de 100 000 euros, normalement, c'est bien ça, la première du président, en 2018. Ça, c'est la feuille de route pour reconquérir une épargne. On travaille fort sur les charges. Maîtriser dès à présent les dépenses d'investissement, je crois que dans le rapport, la Chambre le dit très clairement, réduisez la volume. C'est pas soutenable. Vous avez une épargne nette négative, réduisez la volume. Ce qui invite également à se poser d'autres questions, parce qu'il y a une ambition politique pour faire du développement économique, mais on peut faire du développement sans avoir recours forcément tout le temps à de la maîtrise d'ouvrage public. Vous avez des possibilités de maîtrise d'ouvrage privé, des modes de gestion propres qui permettent de porter des projets. Donc ça, c'est également un regard. Et un travail sur l'accroissement des ressources locales. Alors là aussi, ben, le choix politique, il est assez clair. Je crois que vous en avez bien discuté. Vous avez bien noté qu'il y a une corrélation entre l'impôt, l'effort fiscal ménage et un lien qui va impacter très, 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 très vite hein, la relation ville-agglomération dans un pacte financier. Il faudra une concertation fiscale entre nos communes et l'agglomération, c'est évident. L'objectif voulu et la consigne donnée, c'est de baisser l'effort fiscal des ménages lourds, même si, vous l'avez souligné dans le rapport les uns les autres, on est en deçà des taux et des moyennes départementales ou nationales. Action 2, viser l'équité fiscale. Alors l'équité fiscale, c'est un souci de rééquilibrage, ça a été évoqué, entre la fiscalité directe, c'est-à-dire l'impôt qu'on vient collecter au ménage, puisque pour les entreprises, c'est une collecte qui est faite par l'agglomération, et la fiscalité indirecte. Et nous savons très bien que sur Lourdes, il y a une fiscalité indirecte très intéressante. Donc le souci de l'équité, c'est de regarder avec tous les partenaires sociaux, socio-économiques et professionnels, ben, comment je peux le travailler, sachant que pendant très longtemps, le financement des projets touristiques, mais c'est des choix, hein, c'est tout, a été fait en sollicitant la fiscalité ménage. Voilà. L'action 3, elle est pas techno, c'est tout un travail qui est à faire d'optimisation des bases fiscales dans le cadre de Tarbes, Lourdes, Pyrénées, agglomération. On a des challenges assez forts sur la cotisation minimum de CFE. On a des logiques d'abattement à regarder, des cohérences à travailler. Et un outil comme le SIG qui est possédé par le Grand Tarbes peut être mutualisé et servir les intérêts de tout un territoire. Donc là, il y a une jolie page blanche à écrire ensemble. Alors, là aussi, pas de miracle, le scénario de redressement, il est basé sur des hypothèses très, très simples. Sur les recettes de fonctionnement, ce sont des tendances, hein, on est d'accord, hein, je m'expliquerai, des bases de fiscalité qui évoluent d'une manière très, très minimum. Hein. On a pris l'hypothèse de 1%, c'est très bien par exemple, qu'en 2017, c'est 0,4%. Des taux communaux fixes sur la période, ça c'est un choix des élus, donc nos communs, hein, on va faire avec. Et une optimisation de la fiscalité indirecte locale dès 2018. Donc il y a ce travail qui reste à faire dans les quelques jours et à partager dans les jours qui viennent. Sur les dépenses de fonctionnement, là on n'a plus de filet. Donc on s'est mis à flux tendu sur les achats et prestations de services. Sur les frais de personnel, il y a un travail qui est fait ligne à ligne et par agent. Et par agent, puisque un agent est concerné par plusieurs articles budgétaires, hein, que ce soit salaire, indemnités diverses et variées. Donc là, on va rentrer forcément dans cette GPEC. La politique associative, je l'ai dit, elle est gelée, ça ne bouge pas. Les contingents fixes avec une baisse au niveau de TACAM fin 2017, surtout 2018, baisse de 10. Ben, les frais financiers sont liés aux emprunts qui sont revisés ou pas, ça c'est du grand classique. Sachant que, alors on a une chance, hein, c'est qu'on a aujourd'hui sur le territoire, on a mis en place une charge de mission en charge des politiques contractuelles qui travaille avec les services. Et en moyenne, nos projets d'investissement sont subventionnés à 47%, ce qui est énorme. Il y a beaucoup de travail qui est fait, sachant que comme le CTVA nous rapporte 15% sur les projets, même s'il y a un décalage de 2 ans, on sait que quand on investit en moyenne, pareil, on a 60% de financement extérieur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça se passe très bien, on va dire, avec nos partenaires, qu'ils soient État, région, département, PETR et d'autres. Ça marche bien. On a pris comme hypothèse, là aussi, les tendances de marché à restant T, 2% fixe sur 15 ans, ça peut se discuter. Mais ça nous permet de faire tourner le modèle. Alors, moi moi, je ne suis pas magicien. Donc déjà, les limites de l'exercice, vous les voyez. D'abord, ce qui va vous être présenté, c'est... Donc, en deux mots, hein, on va travailler sur des masses et des volumes. Hein. Donc des erreurs de 100, 200 000 euros sur des agrégats financiers. Sur ces masses-là, sur les 4 années qui s'ouvrent, ce sont juste des tendances. Hein. En plus, donc, les éléments de prospective financiers, ils seront modifiés par les diverses lois de finances qui vont suivre, 18, 19, 20. Voilà. L'objectif, c'est de donner, c'est un document d'aide à la décision, ni plus ni moins, et de donner des caps dans ce qui est possible, dans ce qui n'est pas possible. On aurait pu sortir 40 scénarios. On est parti sur un qui nous semble plausible, et je vais vous le détailler. Après, dans notre relation avec notre agglomération, il y a tout un tas de sujets qui restent à traiter et qui viendront enrichir les équilibres financiers. Exemple, les dépenses liées au pèlerinage des gens du voyage. Il y a un gros débat juridique. Ça coûte à la ville de Lourdes à peu près 300 000 euros. Aujourd'hui, avec le transfert de compétences et de la compétence État sur les grands rassemblements, il y a une grosse discussion. Il y a une très grosse discussion. 300 000 euros, c'est un gain de 300 000 sur l'épargne directement. Donc le débat va être sérieux, on est bien d'accord. Il y a également tout un travail avec notre agglomération sur le reversement du FPIC, puisque on était dans une communauté qui était contributeur au FPIC à hauteur de 1 100 000, communauté des communes. Lourdes est impactée, et de Lourdes à hauteur de 450 000 euros. Demain, c'est-à-dire en 2017, donc aujourd'hui, on ne paiera plus cette contribution. Au contraire, on serait bénéficiaire. J'en reste là, parce que pour l'instant, on est sur des masses. Et ensuite, sur ce FPIC, il y aura un arbitrage politique à faire. Il y aura un travail avec des évolutions. On transfère des compétences forcément, nos attributions de compensation vont bouger en fonction. Donc tout ça sera regardé de près et moi, je proposerai de temps en temps qu'on puisse, à chaque fois qu'il y a des éléments tangibles, qu'on puisse vous proposer une mise à jour et qu'on puisse vous en informer tranquillement. Alors, l'objectif, il est simple. Et tout le travail, donc, si je reprends hein, les hypothèses, les actions, c'est pourquoi ? C'est pour arriver à ça. Et au-delà de 2020, parce qu'il ne s'agit pas de recouvrer certains équilibres en 2020 et ensuite, point barre, non. Donc, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est au service d'une continuité et durablement. Donc, en fait, on peut le tourner autour du pot, mais en termes d'agrégats financiers, vous en avez trois, et j'ai rajouté le niveau d'investissement. L'important, le plus important, c'est la CAF, la capacité d'autofinancement net. Idéalement, mais c'est un idéal, il faut que ça tourne autour de 10% des recettes réelles de fonctionnement. De tête, je crois qu'on doit être à 27 millions. Bon, il faudrait une casse nette à plus de 2,7 millions. Donc j'ai pris les valeurs de début de mandat, pour faire simple, et ce qu'on a proposé aux élus, c'est une prospective avec des valeurs de fin de mandat. C'est compliqué, c'est dur, mais c'est atteignable. Par contre, moi je ne vends pas de rêve. On aura, si tout va bien, une CAF à peine positive. Ça a été dit, le régime des dotations de l'État, ce n'est pas ce qu'on a connu. C'est hyper compliqué. Voilà, donc si on arrive à ça, moi je signe de suite. De suite. La capacité de désendettement, aujourd'hui, elle nous fait mal. Et elle nous fera très mal, surtout quand le pool bancaire, puisqu'on a des relations chaque année avec toutes les banques, on est réunis, on leur explique ce qu'on fait, on leur explique où on veut aller, et on leur dit surtout ne lâchez pas, surtout maintenant. Eux nous disent, les amis, nous, on a des contraintes, les collectivités qui sont en épargne nette négative, en termes de taux, ça va se ressentir. Dépêchez-vous. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on partage ce plan stratégique, parce que très rapidement, je vais les reconvoquer en leur disant, voilà, on a présenté ça à nos élus, voilà, ils nous suivent, donc suivez-nous, vous aussi. Il faut qu'on recouvre une capacité de désendettement en deçà de au moins 12 ans de notre capacité d'autofinancement brut. Alors la carte brute, c'est simple, c'est les recettes. Je repars. Hop. Les recettes réelles de fonctionnement, moins les dépenses, mais moins les intérêts de la dette. On ne soustrait pas le remboursement du capital. C'est un ratio universel qui fonctionne à peu près bien. Alors, c'est vrai, 60 ans, ça paraît délirant comme ça. Bon, voilà, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Notre axe de progrès s'est passé sous la barre des 12. Pour ça, alors, j'ai dit aux élus que j'allais leur promettre encore du sein et des larmes. Ouais, ça se traduit normalement par une baisse de la volume. Lyon, c'est en moyenne. Hein. On est sur des moyennes. Une année, ça peut faire 5-6 et les autres années, beaucoup moins. C'est investir pas deux fois moins que sur le précédent mandat, mais pas loin.